La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Mesdames, messieurs, Pierre-Yves va vivre l'expérience de la séquestration budgétaire aujourd'hui, ce qu'on appelle le huis clos, pour prendre connaissance de tous les détails. Est-ce que c'est la première fois que tu fais ça?
C'est la première fois que je fais ça. On voit que je co-investis dans mon avenir. Là, on me séquestre pendant quelques heures sans mon cellulaire, ce qui va être bon pour ma santé mentale.
Ça, c'est très bien. Alors, pourquoi ce budget-là est si important?
Plusieurs raisons. Une grande partie du budget va être, disons, présentée au niveau marketing comme pour donner espoir aux Canadiens, aux jeunes adultes, d'être dans un Canada équitable pour tous. Une réalité derrière ça sera peut-être qu'on va présenter le budget comme une dette quand même relativement correcte par rapport au PIB. On est moins pire que d'autres pays de l'OCDE. On va présenter ça de cette façon-là. Mais ceux qui vont vraiment regarder le budget aujourd'hui, ce sont les agences de notation qui vont se dire « Le Canada voit le coût de sa dette augmenter, promet déjà 19 milliards de dépenses supplémentaires. » Comment on va supporter ça? Est-ce que la croissance économique est là? On en doute par rapport aux Américains. On voit déjà l'écart. Est-ce qu'on va augmenter les impôts? Jonathan te parlait du 0,13% des Canadiens les plus riches. Je vais être bien honnête avec toi. Les plus riches au Canada, le gouvernement ne les cible pas vraiment. Il ne les connaît pas parce que le gouvernement du Canada sépare les actifs d'une compagnie des actifs personnels. Alors, quand on parle des millionnaires ou des six chiffres avancés, ce sont des grands salariés au Canada. Mais on ne connaît pas la véritable fortune des individus avec une déclaration de revenus personnelle. Et ça, si on fait croire aux citoyens canadiens que c'est avec ça qu'on paye les impôts canadiens, avec les plus riches, non. C'est avec ceux qui déclarent des gros revenus personnels. Mais ça ne représente pas la richesse au Canada. Je peux avoir 50 millions d'actifs puis vivre bien sobrement et n'avoir qu'un revenu personnel déclaré très faible. Alors, c'est ça l'enjeu. Quand on va dire aux Canadiens « Ah, les entreprises doivent payer plus », on le fait pas tant que ça parce qu'on veut pas perdre les entreprises. Donc, le citoyen qui va payer plus, ça va être comment? Là, on parle de concepts un peu mélangés comme l'impôt minimum de remplacement, c'est-à-dire c'est un impôt qui garantit que lorsque tu as plein d'avantages fiscaux, tu vas payer un minimum d'impôt au Canada. Mais c'est une notion très complexe pour les contribuables. Alors, présentement, ce qu'on veut savoir, c'est quel sera l'impact de la dette, quel sera l'impact du coût de la dette et quelle sera la vision des grandes entreprises de ce monde vis-à-vis du Canada.
Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
J'ai une question pour toi qu'un auditeur m'a transmis. Sans augmenter les impôts, je parle pas des gens plus riches, là, mais disons des hauts salariés, est-ce que de façon un peu coquine, le gouvernement pourrait faire disparaître tout doucement ou réduire certains crédits d'impôts pour faire en sorte que la facture augmente quand même?
Oui, effectivement, le problème, c'est quand tu le présentes dans un budget, c'est écrit noir sur blanc. Alors, le faire subtilement, c'est difficile. J'ai déjà vu ce genre de situation-là au Québec, comme par exemple, après le débat sur les frais de scolarité, on avait baissé le taux de crédit pour la formation. Donc, on est allé rechercher de l'argent sur plusieurs années de façon contournée. Au Canada, ici, on n'a pas un gouvernement qui a vraiment une réputation d'être capable de faire des décisions politiques ou de prendre des décisions politiques. Je ne sais pas si tu te souviens de Michael Wilson avec Brian Mulroney qui avait imposé la TPS. Ça, c'est une décision politique majeure qui a eu des enjeux majeurs et qui a probablement à perdre les élections au gouvernement conservateur par la suite. Mais le gouvernement Trudeau a une réputation, c'est-à-dire dépenser plus. Jamais on les a entendus parler de compression, de choix de société, de revoir certains programmes, d'éliminer certains organismes ou quoi que ce soit. On est toujours en croissance de l'État en minimisant le poids des dépenses par rapport à la croissance économique ou le PIB ou autre. Et donc, c'est ça la marque de commerce. D'ailleurs, depuis 2008-2009, jamais le gouvernement fédéral n'a vu l'équilibre budgétaire comme un enjeu assez important pour le viser. Ça fait quand même longtemps. Ça veut dire que depuis la crise financière, jamais on s'est dit, vous savez quoi? On a un objectif précis d'équilibre budgétaire, puis on vous dit quand on va l'atteindre. Et avec la COVID, oublie ça, là, ça va être du 40-50 milliards. Ce qui est l'équivalent du déficit que Stephen Harper avait fait dans une situation critique de crise des liquidités.
Alors, qu'est-ce que je surveille, moi, comme citoyen aujourd'hui, à part les deux grands thèmes dont tu parles, le déficit puis, disons, les programmes sociaux, là?
Comme citoyen, il y a deux choses que je veux regarder. A, à quel point la réponse de mon gouvernement provincial va être à la hauteur? C'est-à-dire que l'ingérence fédérale est tellement grande que ce qu'on doit s'assurer comme citoyen, c'est pas notre petit gagne-pain à nous, c'est plus de s'assurer que le chèque qui va aller aux provinces va être proportionnel aux besoins qu'on a par rapport à l'ingérence. Je te donne un exemple. Si le gouvernement fédéral met de l'argent dans les garderies, faut que l'argent qu'on dépense ici dans les garderies soit compensé à la même hauteur que les autres provinces. Si le gouvernement fédéral ne tient pas compte que notre facture au niveau de la santé augmente de façon drastique, faut que le gouvernement s'en rende compte à un moment donné au Québec, puis ils le savent très bien, et fasse pression sur Ottawa. Parce que l'argent que Justin Trudeau dépense présentement pour ses décisions politiques, il ne le transmet pas aux provinces qui, elles, une surpondération de risque au niveau de la santé puis de l'éducation. Alors, il est peut-être beaucoup plus macro, notre enjeu de citoyen, c'est de se dire, faut peut-être envoyer un message au fédéral puis dire, là, c'est le fun, là, votre party, là, pour des élections. Mais nous, notre enjeu, il est collectif et nous, on a déjà au Québec pris des décisions passées avec lesquelles on vit depuis plusieurs années pour ces programmes-là. Donc, mêlez-vous de vos affaires, envoyez-nous le chèque, puis laissez-nous gérer notre impôt qu'on paye déjà. Non, mais pour vrai, c'est frustrant quand tu vois le fédéral dédoubler les programmes d'assurance dentaire quand il y a déjà des assurances privées, des assurances gouvernementales, puis là, on ajoute un troisième régime en fonction de ton revenu. Ça devient un capharnaüm fiscal, puis tu crées encore des injustices entre les citoyens. Donc, je vais être là aujourd'hui,
ben oui,
bien séquestré, avec mon café, en regardant les autres travailler, puis en disant « Hey, je fais partie de la gang pour une fois. » Mais Paul, c'est assez excitant d'être à Gatineau. C'est un autre monde. Ici, là, il y a du développement immobilier comme j'en ai rarement vu. T'es sur le bord de la 50, l'autoroute est presque neuve dans l'histoire du Canada quand tu y penses. Et là, t'as des immeubles pis des maisons à même l'autoroute, cordées en rangée. T'as donné à quelle idée on a un boom ici en besoin de logement. Et c'est une bonne représentation de ce que le Canada est en train de dire.
Merci, monsieur.
Salut.
C'est 23.